Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école. Utopiques et prosélytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture, portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx, les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Aujourd'hui, le manifeste des frères musulmans.
En 1848, dans leur célèbre manifeste, Marx et Engels affirment que le communisme est le spectre qui hante l'Europe. Depuis, en 1989, le communisme réellement existant s'est effondré. Et un nouveau spectre semble hanter notre monde. Sa profession de foi, Dieu est notre but, le prophète notre chef, le Coran notre constitution, le combat notre chemin, la mort au service de Dieu notre désir le plus cher. Le manifeste objet de notre discussion de ce jour pourrait se résumer en deux mots accolés. Islam politique. Il a été rédigé par Hassan al-Banna, un pieux et modeste instituteur égyptien, fondateur d'une confrérie de frères animée par la foi musulmane. Elle va devenir puissante. Et même se doter d'une branche militaire qui assassinera en décembre 1948 le premier ministre Mahmoud Pacha. En représailles, Hassan al-Banna est assassiné le 12 février 1949. Il avait 42 ans. Trois ans plus tard, en 1952, un ancien membre clandestin de la confrérie, à la tête d'un groupe d'officiers libres, renverse le roi Farouk. Il s'agit bien sûr du lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser. Il a 33 ans. Il va devenir la grande figure du nationalisme panarabe et socialiste. Des références aux antipodes du credo des frères, lesquels vont faire l'objet d'une répression féroce. Mais portés par leur foi, ne renonçant à aucun martyr, de la Syrie au Maroc, en passant par Gaza, les frères musulmans sont devenus un acteur majeur de l'histoire politique et sociale du monde musulman. Jusqu'à ce que les printemps arabes les amènent aux portes du pouvoir avec plus d'échecs que de succès. Bousculé par la révolution iranienne, Michel Foucault eut cette pensée. Le problème de l'islam comme force politique est un problème essentiel pour notre époque et pour les années qui vont venir. Le spectre est bien là, dans le monde musulman et au-delà. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Dominique Avon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, spécialiste du sunnisme. Vous êtes actuellement directeur de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman au sein de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez enseigné en Égypte, au Liban. Et parmi vos nombreux ouvrages, je citerai votre ouvrage qui est une somme consacrée à la liberté de conscience, histoire d'une notion et d'un droit, publié aux presses universitaires de Rennes en 2020 et vient de paraître 2021, l'histoire religieuse contemporaine en France à la découverte. Anne-Clémentine Larocque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de cours à Sciences Po, spécialiste de l'idéologie islamiste. Vous avez publié en 2018 « L'islamisme au pouvoir Tunisie, Égypte, Maroc » au PUF et toujours au PUF en 2021 « Le trou identitaire sur la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam ». Dominique Avon, Hassan al-Banna, c'est qui exactement ?
Alors Hassan al-Banna, comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, est un instituteur, c'est-à-dire qu'il a une formation au début du XXe siècle qui est de type moderne en grande partie, dans un institut qui a intégré un certain nombre de disciplines qui ont été cristallisées en Europe, mais qui sont passées en langue arabe. Et dans le dernier tiers du XIXe siècle, c'est ainsi que l'on forme des nouveaux cadres et non plus seulement les enfants aux sciences islamiques dans les madrassas traditionnelles. Donc il appartient à cette relève qui vise à construire une Égypte moderne. En 1919, à un moment clé pour l'histoire égyptienne, il a 13 ans, donc il voit adolescent ce mouvement révolutionnaire anti-britannique, et ça le marque. Les Britanniques occupent militairement l'Égypte depuis 1882, et au moment de la conférence de la paix, une délégation emmené par Saad Zahloul, aurait bien aimé pouvoir faire reconnaître l'indépendance de l'Égypte. C'est un échec. La délégation, les membres de la délégation sont même arrêtés. Et donc, il voit ceci. Mais ce qui l'intéresse davantage encore dès son âge adolescent, c'est de créer un ordre moral et religieux, l'un et l'autre étant complètement liés. Et donc, dans son village, son père est imam et horloger, dans son village, il organise une association de jeunes qui vise à pourchasser le mal et à promouvoir le bien en dénonçant ceux qui se comportent, à ses yeux, comme des mauvais musulmans.
Et plus tard, il va appartenir à une confrérie soufie.
Il passe effectivement par une confrérie soufie. Et le terme confrérie, à mon avis, est mauvais pour parler de l'organisation qu'il crée lui-même. Il vaut mieux dire tanzim, c'est-à-dire organisation, parce qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec les confréries soufis traditionnelles. Précisons que de son vivant même, par exemple, à la fin des années 30, des Égyptiens ne savent pas très bien ce que c'est que cette organisation. C'est une organisation de type moderne, avec une structuration qui est inconnue jusqu'alors. Donc le flottement sémantique est lié à quelque chose de nouveau dans la modalité de mobilisation des troupes.
Dans cette organisation des troupes, il a déjà une conscience, je dirais, de revenir à une sorte d'islam moral. C'est ça son credo.
Un islam global, c'est-à-dire un congrès qu'il mène en 1939, qui est un congrès absolument essentiel, qui reprend des éléments de ce manifeste dont vous avez parlé tout à l'heure, il rappelle bien ce que doit être l'islam. L'islam est, dit-il, doctrine, culte, patrie, nationalité, religion, état, spiritualité, travail, livre et épée. Tout ça, c'est l'islam pour lui. Et il appelle ça l'islam hanif ou l'islam sahih, le véritable islam. Il dit, nous ne créons pas un islam jadid, nouveau. Nous revenons à l'islam pur.
Vous avez évoqué le protectorat britannique et les épisodes de l'immédiate après-guerre. Il y a un autre élément, événement essentiel à cette époque, c'est la disparition du califat en Turquie, à Istanbul. Au fond, on a l'image d'une laïcité à la turque, mais en réalité, c'est une nationalisation de la religion, à ce moment-là, par Atatürk, et une sécularisation de la religion musulmane. Les imams sont tous des fonctionnaires de l'État turc à partir de ce moment. Est-ce que ce n'est pas aussi est-ce que au fond, la visée de Hassan al-Banna n'est pas précisément de revenir à quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, s'apparente au califat? Anne-Clémentine Larocque.
Alors évidemment, la prise en compte de cet événement est capitale pour comprendre la mise en place du Tanzim des frères musulmans, effectivement, parce que à ce moment-là, symboliquement, donc le califat sunnite chute. C'est un sultanat califat en réalité, qui était représenté par des Ottomans, donc des personnes qui n'étaient pas arabes non plus, faut quand même le dire et le signaler. Et effectivement, à partir de cela, dans les années 20 et dans les 10 années qui vont suivre, on va avoir un certain nombre de propositions, dont le Tanzim, effectivement, d'Hassan al-Banna, pour quelque part, si on le lit aujourd'hui, hein, avec du recul, proposer autre chose et proposer aussi de compenser cette perte, ce trou du califat, donc dans l'histoire du monde sunnite. En 1926, vous avez la première association salafiste qui va être créée au Caire. 1928, la confrérie des frères musulmans. 1932, la monarchie d'Arabie Saoudite qui est mise en place. Donc en 10 ans, on va avoir aussi une réaction face à cette chute du sultanat califat qui va, en réalité, pour les musulmans lambda, ne va pas forcément représenter au quotidien un changement. Mais dans la tradition et dans les grandes écoles, dans les grandes universités, dans les grandes mouvances islamiques sunnites, ça va être une véritable révolution. Vous avez, par exemple, en Inde, des mouvements qui vont justement essayer de réfléchir à la manière dont on peut compenser cette perte du califat sunnite.
C'est donc un double combat, à la fois contre le colonialisme et contre les valeurs occidentales. L'ensemble de ce mouvement, et en particulier le manifeste d'Al-Banna.
Pour l'islam aussi.
Oui, c'est explicite. C'est explicite dans les différentes épîtres qu'il écrit. Hein, l'ensemble des épîtres d'Hassan al-Banna constitue vraiment le socle doctrinal de sa pensée.
En fait, ce qu'on appelle manifeste, ce sont des épîtres.
Donc, il y a plusieurs épîtres qui sont recueillies et qui servent vraiment de socle idéologique. Il dit bien qu'il faut lutter contre Al-Thaqafa, la culture qui vient de l'étranger. Et donc c'est un combat qui est d'ordre culturel autant que d'ordre politique. Vous avez parfaitement raison.
C'est pour ça que l'éducation a un rôle extrêmement important, la tarbiya, parce que précisément, on doit absolument fonder les éléments de cette nouvelle culture qui ne peut être qu'islamique à partir du plus jeune âge de l'enfant.
Et justement, dans le manifeste ou les épîtres, il y a quelque chose qui revient sur la Narda, c'est-à-dire sur l'idée de la modernité, puisqu'il propose la fusion des écoles coraniques et des écoles élémentaires.
Oui, l'enseignement doit être intégralement islamique. Donc lui, le terreau d'où il vient, où il a été formé, est insatisfaisant à ses yeux, puisqu'il introduit des disciplines profanes, la discipline historique qui ne fait pas la place qu'il considère être nécessaire à l'histoire de la civilisation islamique telle qu'il la conçoit lui-même. Et donc il dit qu'il faut revoir tout ça et avoir un seul modèle d'éducation qui est centré sur un islam complet, global, englobant.
Il y a l'idée qu'il n'y a plus de différence entre la vie privée et la vie publique. Tout est sous contrôle dans son manifeste.
Ça va dans tous les domaines. Par exemple, il insiste beaucoup sur la question du sport. Pourquoi insiste-t-il sur la question du sport? Il dit que le sport est une valeur islamique au sens où le mu'min qawi, c'est-à-dire le croyant fort, est nécessaire à la cause de l'islam. Donc il faut le former sportivement pour qu'il serve à la cause de l'islam. C'est-à-dire, il n'y a pas un aspect de la vie individuelle et collective qui doit échapper à la norme islamique.
Et ce sport n'est pas mixte, Anne-Clémentine Larocque.
Exactement, la non-mixité est la règle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement se mélanger, on ne doit jamais se mélanger, avec cette idée évidemment aussi qui va être reprise dans le salafisme, mais qui existe aussi chez les frères musulmans, que la femme soit le complément de l'homme. Il n'y a pas l'idée d'égalité n'est pas présente du tout. Et pour revenir à cet aspect totalisant, alors certains appellent ça totalitaire, moi je dirais totalisant, parce que c'est autre chose encore, le totalitarisme. C'est l'idée de pouvoir effectivement fonder un monde qui n'est que pour orthopraxie l'islam.
Vous avez employé de nouveau le terme salafiste. C'est quoi la différence? Et vous avez même dit qu'il y a une association salafiste qui se crée avant ce tanzim des frères musulmans. Mais c'est quoi la différence idéologique, je dirais, et elle continue, entre salafistes et frères musulmans, Anne-Clémentine Larocque?
Alors, c'est une question extrêmement complexe, puisque justement, les choses ont évolué, se sont intriquées parfois dans le temps et dans l'histoire, pour pouvoir aussi se détacher par ailleurs. Au départ, ce qu'on appelle la salafia, qui va naître au XIXe siècle, n'est pas ce qu'on appelle le salafisme, hein, puisque c'est une des propositions de la Narda, pour pouvoir revitaliser cette
identité. La Narda, c'est...
La Narda, c'est justement donc ce réveil,
la renaissance
de l'identité islamique et arabe par rapport à deux vecteurs en fait de concurrence qui existent, c'est-à-dire le monde ottoman, qui en plus est un monde qui est certes sunnite, mais qui est ottoman, et donc qui n'est pas arabe, et ensuite, effectivement, la menace occidentale qui est de plus en plus importante. Et donc, par rapport à ça, il y a une proposition au XIXe siècle qui vise justement à revitaliser cette identité islamique. Et vous avez aussi, à côté de cette idée-là, le wahhabisme qui existe depuis le XVIIIe siècle en la personne d'Ibn Abdel Wahhab qui a rencontré les princes séoudes et qui ont conclu un pacte, si je puis dire, qui ont fondé en tout cas une doctrine qui est une doctrine fondamentaliste, littéraliste, qui a pour but effectivement de rester extrêmement fidèle à la famille saoudienne et en même temps extrêmement fidèle, je dirais, aux pieux ancêtres et au fondamentalisme qu'on peut trouver donc dans la Sunna et dans le Coran. Et le salafisme va s'offrir, je dirais, un nouveau terrain de jeu, entre guillemets, au XXe siècle, au moment même aussi où les frères musulmans vont émerger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence fondamentale, moi je trouve, hein, de manière très schématique, attention, entre un frère musulman et un salafiste, c'est déjà la temporalité de leur projet. La temporalité salafiste peut être extrêmement plus brutale, elle est plus réactionnaire, plus révolutionnaire que celle des frères musulmans, qui est ancrée quand même dans une temporalité plus longue, avec une profondeur sur laquelle on peut insister. Ensuite, on peut dire que, j'en discutais avec Adrien Candillard quand j'étais allée justement au Caire, qui me disait, mais finalement, les frères musulmans ne proposent rien véritablement aujourd'hui, donc entre 2011 et aujourd'hui, sur l'aspect idéologique, alors que les salafistes sont des gens qui ont beaucoup plus travaillé les hadiths de la Sunna et vont avoir une proposition plus claire. Ensuite, vous allez avoir aussi un terrain où les valeurs, je dirais, des frères musulmans et des salafistes peuvent se confondre, avec par exemple la distinction entre le halal et le haram, le licite et l'illicite. Les salafistes vont rajouter l'idée du désaveu et de l'alliance. C'est un autre principe. Et je dirais aussi, dans la conception de l'ennemi, si on veut être encore une fois très schématique, il y a vraiment une différence forte. C'est-à-dire que le salafiste va être assez obsédé sur l'idée de purifier l'umma à l'intérieur.
Hein, et donc de la c'est-à-dire la communauté
des musulmans, voilà. Et donc va avoir une obsession sur les soufis, sur les chiites, à propos des chiites, des soufis qui soient justement, ou les apostats, par exemple, les princes saoudiens, qui sont de mauvais musulmans, les munafikoun, qui sont les hypocrites. Le frère musulman va avoir, si on reprend effectivement la doctrine d'Hassan al-Banna au tout départ, deux grands ennemis, ce sont les juifs et les occidentaux. C'est-à-dire des acteurs qui vont essayer de menacer, de fragiliser cette Oumma islamia. Et dans ce contexte-là, moi je dis souvent pour schématiser, finalement on aurait plus une forme de paranoïa chez les salafistes et une xénophobie chez les frères musulmans.
J'ai certains désaccords, mais c'est intéressant justement de pouvoir échanger. Hassan al-Banna, à la fin des années 20, il travaille avec des salafistes et même il est le correspondant d'une revue salafiste à Ismaïlia. Son lieu d'enseignement est là où il fonde le Tanzim des frères musulmans. Donc, fondamentalement, il n'y a pas de divergence de ce point de vue-là. Du point de vue de la critique de l'ennemi, c'est pas les juifs en général, c'est les sionistes. Et à la fin des années 20, surtout au milieu des années 30, c'est les juifs sionistes qui intéressent. Donc c'est très important ici de faire la distinction.
À cause en revanche, de la Palestine, bien sûr.
À cause du projet sioniste en Palestine. Donc dès les années 36-37, il envoie des frères musulmans combattre en Palestine. Il y a eu une rencontre avec le moufti de Jérusalem et donc il y a un accord ici pour combattre. En 48-49, il en envoie encore davantage. Donc c'était quelque chose de précis. Après, à certains moments, je rejoins ce que vient de dire Anne-Clémentine Larocque, notamment pour la période la plus contemporaine, mais la différence fondamentale, c'est que les frères musulmans, c'est une organisation. Les salafistes sont une mouvance qui relève de plusieurs tendances courants, partis également, puisque maintenant il y a des partis. Mais la particularité des frères musulmans, c'est qu'il y a un attachement à cette organisation avec une hiérarchisation et le projet fondamental n'est absolument pas différent. C'est-à-dire que l'idéal, c'est une société islamique intégrale.
Oui. Mais une organisation, justement, on a le sentiment dans les années 30 qu'il y a une sorte de mimétisme avec des courants qui existent en Europe. C'est-à-dire qu'on calque un peu les modes d'organisation qui vont être ceux, par exemple, des partis même fascistes. Enfin, on organise les femmes, les jeunes, on fait tout ça.
Et c'est tout à fait juste, ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Par exemple, le groupe Jeune Égypte, qui apparaît dans la seconde moitié des années 30, qui est parfois confondu à l'époque même avec les frères musulmans. Et Hassan al-Banna dit « Nous ne sommes pas Jeune Égypte, même si on peut se retrouver », et est calqué sur ce type de parti-là. Et d'ailleurs, Jeune Égypte, pendant la Seconde Guerre mondiale, a des liens avec l'Allemagne nazie, ce qui n'est pas le cas des frères musulmans.
Clémentine Larocque.
Je suis tout à fait d'accord avec Dominique Avon. C'est vrai que j'aurais pu continuer sur cette voie-là, sur la structure, l'organisation et un projet évidemment qui est commun et qui est commun même aux djihadistes quand ils parlent justement de califat. Il y a finalement des moyens différents mais avec un projet qui est évidemment commun.
Mais une organisation très moderne. On va s'implanter dans des syndicats, on va faire des organisations professionnelles. Oui. C'est très moderne.
Il y a tout un recrutement qui s'organise effectivement, qui est très pyramidal. D'ailleurs, il y a des voilà, on peut trouver des schémas, la structure justement du bureau central égyptien au départ qui va être justement repris dans d'autres pays et dans d'autres sur d'autres continents même par la suite. Mais dans ce cadre-là, on va vraiment avoir une organisation qui se crée. Et d'ailleurs, les Saoudiens au moment où Nasser expulse, vous savez, les frères musulmans de l'Égypte, les Saoudiens proposent aussi une terre d'accueil. Il n'y a pas que les Saoudiens, il y a d'autres pays comme la Jordanie aussi, par exemple, qui vont proposer d'accueillir ces frères musulmans, mais ils vont aussi être extrêmement ouverts à leurs conseils pour pouvoir se projeter en dehors de l'Arabie Saoudite, parce que précisément, ils ont vraiment une force réticulaire, donc de réseau, qui est incontestable à cette époque.
On reviendra sûrement sur ce que vous appelez la force réticulaire, mais on a évoqué trop rapidement, me semble-t-il, le manifeste. On a évoqué la question des femmes rapidement, mais quelle est la démarche centrale? Est-ce que c'est de vous évoquiez les pieux ancêtres? Est-ce que c'est de refonder la piété de l'individu? Et l'individu, c'est un homme, dans l'esprit d'Albana, et par extension progressive, de transmettre cette piété refondée à la famille, au quartier, à l'entreprise et globalement à toute la société. Est-ce que c'est ce type d'imprégnation qu'il vise, Dominique Avon ?
Alors, il y a deux éléments très importants dans ce que vous dites. Refonder, et effectivement, dans le vocabulaire de Hassan el-Banna, il y a l'idée de aouda, de retour à. Donc c'est véritablement revenir à. Pour lui, son affirmation, c'est que la société dans laquelle il vit dans les années 20 ou 30 n'est plus musulmane. Donc il faut refaire, et il emploie même une société véritablement islamiquement musulmane. Vous voyez la redondance de ces formules-là. Alors, le second point que vous évoquez, c'est l'individu ne l'intéresse pas. C'est le groupe, hein. Donc on pense en termes de collectivité. C'est le groupe musulman, que ce soit Mujtama, que ce soit Umma, que ce soit... Et donc les éléments de ce groupe sont des éléments de ce groupe. Mais le problème n'est pas l'épanouissement de la personne, c'est la réalisation de la Umma dans son ensemble. Ça c'est aussi très important, c'est-à-dire c'est une pensée qui met la priorité sur le groupe par rapport à la personne individuelle. C'est absolument fondamental.
Et qui justifie, on a évoqué les femmes, mais qui justifie globalement une police des mœurs, en quelque sorte.
Oui, parce que tout est lié, c'est-à-dire que la piété est une certaine manière de se comporter, donc une certaine morale, et qui est une certaine manière de vivre en société et de faire gouvernance aussi. Alors ce qui est très remarquable, et ça répond peut-être à un autre point que vous évoquez ici, il n'y a pas de programme politique détaillé. C'est-à-dire, le régime doit venir de lui-même, le Nizam doit venir de lui-même. Mais vous n'avez pas un détail, et notamment dans le document auquel faisait référence Didier Lesky au départ, vous n'avez pas un détail de l'organisation du pouvoir. L'important, c'est qu'il y ait un lieu où la judicature s'exerce, un lieu où il y ait une autorité exécutive, l'autorité exécutive passant sous la judicature, parce que c'est elle qui exprime les prescriptions islamiques, et le peuple doit suivre.
Oui, enfin, il y a quand même un ordre moral très précis. Par exemple, quand il écrit « Fermer les salles de danse moralement indésirables et les boîtes de nuit, interdire la danse », il appelle à contrôler les cinémas, la chanson, il faut interdire les livres qui promeuvent le scepticisme, c'est quand même, et même, en ce qui concerne la presse, donner aux journalistes une orientation appropriée. C'est quand même très précis.
Tout ceci est très précis, mais c'est pas la gouvernance, c'est pas la modalité d'exercice du pouvoir. C'est simplement ce qui doit être prescrit dans la vie sociétale. Mmh. Et oui, tout ce qui relève du théâtre, des bars, c'est de l'importation étrangère. Donc ceci, il faut s'en passer. Donc dans ce détail, tout à l'heure, Anne-Clémentine Larocque a parlé de praxis et d'orthopraxie. C'est ce qui est central. Après, les modalités d'exercice du pouvoir ne sont pas détaillées. Vous ne trouverez pas comment on répartit telle et telle fonction. Tout ça, on ne le retrouvera pas.
Pardon de jouer les benets, mais vous nous définissez l'orthopraxie, s'il vous plaît. Juste pour que les auditeurs...
C'est une manière d'exercer, d'avoir chaque geste conforme à des prescriptions islamiques héritées.
D'accord. On pourrait le voir comme aussi, de fait, comme une forme de contrôle social qui s'exerce par, justement, une norme, par un système normatif qui serait justement celui des frères musulmans.
Et alors, dans cette volonté de contrôle social, il va quand même y avoir un succès extrêmement fort. On a parlé tout à l'heure des organisations professionnelles, des organisations syndicales. Ça va en réalité assez vite, tout ça. Et puis, il va y avoir peut-être quelque chose de stratégiquement très fort. C'est l'alliance avec la fameuse université du Caire, qui est El-Azhar, Dominique Avon.
Alors, c'est pas tant une alliance qu'aller chercher des chairs. Donc, il se targue, dès la fin des années 30, d'avoir pu attirer à lui des oulémas, donc des savants religieux, d'El-Azhar, cette institution qui forme les cadres religieux.
Parce que lui-même n'était sunnites. Pas un religieux.
Non, lui ça, n'a pas de formation en Usuleddin, en fondement de la religion. C'est un instituteur profane, si vous voulez, et un autodidacte
c'est
en matière religieuse. Mais c'est un homme pieux. Et donc il dit, nous avons besoin d'aller chercher cette force magistérielle-là. Donc il n'y a pas de contrat passé, mais il y a une pénétration de cette université et la récupération d'un certain nombre. Il donne les noms dans ses épîtres, il donne les noms de ses chers qui sont venus à l'organisation des frères musulmans. Et pour un autre point précis, la pénétration des syndicats et des différentes corporations, c'est quelque chose qui lui pose problème. Parce que tout ce qui divise est une difficulté. Pour lui, un musulman doit s'entendre avec un musulman. Si on a deux groupes, par exemple deux groupes syndicaux, c'est un problème. Voilà pourquoi pendant plusieurs années, il n'a pas voulu s'inscrire dans le système des partis. Il est impossible d'imaginer que deux musulmans soient dans deux partis différents. Il s'y résout pratiquement, mais initialement, il n'en voulait pas. Et son petit frère, qui a voulu créer quelque chose, il lui a dit « Je t'interdis de créer ceci ». Donc c'était très fort, hein.
Anne-Clémentine Larrand.
Exactement, et donc la fitna et l'obsession finalement, il ne faut absolument pas qu'il y ait de séparation dans le groupe, dans cette ouma dont on parlait tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye de traduire de la confrérie des frères musulmans n'a pas forcément de sens par rapport à ce que Hassan al-Banna aurait voulu, si vous voulez, dans le sens où l'opposition des uns et des autres ne peut pas exister. Donc cette vision-là, on l'a pas nécessairement et on va vite. Et effectivement, on fait aussi beaucoup de raccourcis actuellement par rapport à cet aspect de la vision c'est évidemment religieuse, mais aussi sociologique quelque part qu'il avait. C'était une forme de militantisme qui mêlait une vision sociale à une vision religieuse.
Mais je reviens un instant sur El Azhar parce que quand même, il dit il faut qu'il y ait plus de fonctionnaires qui soient passés par El Azhar, qui soient employé par l'État, ça c'est quand même quelque chose d'important.
C'est ce que j'ai indiqué en parlant de besoin du magistère religieux. Lui ne l'a pas, ce magistère-là. Donc il a besoin d'aller chercher ses cadres religieux à sa cause et les rallier à sa cause pour qu'ensuite ils essaiment. Et voilà pourquoi il s'appuie sur ce réseau-là. Et jusqu'à une période très récente, on peut franchir les décennies et voir que la crispation du grand imam actuel en 2012-2013, lorsque les frères musulmans dirigeaient le pays en Égypte, elle s'est renforcée avec, justement, cette pénétration croissante d'El Azhar par les frères musulmans. Ils y étaient déjà, mais durant l'année où ils exercent le pouvoir, ils essayent de les pénétrer davantage. Et c'est une réaction d'une partie des Azharis qui ne sont pas frères musulmans en disant « Vous n'allez pas tout prendre ». Vous n'allez pas tout prendre. Vous n'allez pas prendre l'armée, vous n'allez pas prendre la police, vous n'allez pas prendre la justice. C'est ce qui explique, en fait, pourquoi Ahmed...
La chute de Mohamed Morsi, c'est ça?
Plus exactement, la justification et le soutien du grand imam actuel au coup d'État. C'est ce qui explique ce soutien-là.
On y reviendra. Encore un mot sur le vous évoquiez la dimension sociale, mais c'est un mode d'action essentiel pour les frères musulmans. L'action sociale auprès de qui les plus déshérités, les classes moyennes, comment? Anne-Clémentine Larocque.
Au départ, dans le projet, c'est absolument tout le monde. Après, ils essayent de prendre ce qu'on leur donne. C'est-à-dire que au fur et à mesure aussi de ces échanges et de ces compromis qui sont fixés par l'exécutif égyptien, par exemple, on va leur donner à un moment donné effectivement une possibilité d'agir au niveau des écoles, au niveau de la bienfaisance, qu'on appelle la bienfaisance, et ça ils vont essayer de prendre, ou ils peuvent aussi socialement prendre. C'est-à-dire qu'après une forme de pragmatisme obligatoire qui s'est imposé, puisque ils n'ont pas pu forcément embrasser comme ils le souhaitaient tout le monde au moment où ils l'auraient voulu.
Mais ça marche quand même. Enfin, je veux dire, c'est un puissant levier.
Bien sûr.
Mais vous dites, on va leur donner, qui leur donne?
Alors, ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a eu un certain nombre, en fait, de compromis entre les présidents qui étaient donc à la tête de l'Égypte, je pense évidemment à Nasser, à Moubarak, qui vont utiliser, qui vont instrumentaliser aussi les frères musulmans, selon aussi les besoins politiques, et qui ont bien conscience quand même qu'il y a une force, qu'ils ont cette force sociale et qu'ils ont cette force de réseau existante. Ce qui va aussi permettre aux frères musulmans d'investir des territoires qui ne sont pas que des territoires urbains, mais aussi des territoires ruraux. Ils vont pouvoir justement avoir cette capacité à mener l'éducation, la bienfaisance, que je disais, dans certains territoires qui ne sont pas vraiment du tout aux mains du pouvoir égyptien.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Leski.
Alors, dans cette stratégie d'influence, tout à l'heure vous avez parlé de la Palestine, mais en fait, très vite... Non seulement ils polarisent les débats au sein du monde musulman, mais ils vont commencer à essaimer en Syrie, ailleurs. Anne-Clémentine Larocque ou Dominique Avon.
Oui, dans la seconde moitié des années 30, leur vision passe très largement les bornes de l'Égypte. la représentation du monde de Hassan el-Banna, c'est qu'il y a un monde musulman, et avec des cercles étroits et plus ou moins larges. Le Soudan est immédiat et pour lui, il appartient au premier cercle. Puis un deuxième cercle avec la Syrie, le Cham, d'une manière plus générale. Il ne parle jamais du Liban en tant que tel. Et puis après, il y a le groupe du Maghreb également qui l'englobe. Et tout ça, ce sont les pays chéris. Il appelle ça les pays chéris immédiats. Et puis après, il parle des pays islamiques ou musulmans plus lointains, notamment en Asie. Pas trop d'Afrique subsaharienne, ça ne l'intéresse pas immédiatement, mais ce monde arabe dans son ensemble, plus l'Asie, il a conscience de la force démographique musulmane sunnite de ce monde-là, il regarde aussi vers là. Et effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, l'un des pays qui développe le plus fortement un rameau de la confrérie, c'est la Syrie, avec des personnalités qui occupent des postes importants et qui sont en lien avec les partis politiques dans ce moment très particulier du multipartisme en Syrie qui n'a pas duré très longtemps. Entre 1946 jusqu'en 1963, on a vraiment une implication des frères musulmans dans toute la vie politique, sociale et culturelle de la Syrie.
Et alors comment se fait cette... J'allais dire cette internationale, ça n'en est pas une précisément.
Si on peut le dire, oui.
Parce qu'on a l'impression qu'il y a une assez grande capacité d'adaptation, une sorte de franchise par pays, d'adaptation aux situations locales, non ?
C'est tout aussi juste. C'est à la fois une internationale et des éléments très très particuliers. Ce qui permet de comprendre qu'au même moment, je vais prendre un exemple plus contemporain mais qui illustre bien ça, la Syrie peut taper sur les frères musulmans syriens et soutenir les frères musulmans palestiniens, le Hamas. Donc on voit bien ici que dans un même lieu, un même moment, et les frères musulmans palestiniens soutenir Hafez, puis Bachar el-Assad, et alors que les frères musulmans syriens le combattre. Donc oui, vous avez parfaitement raison, c'est à la fois une internationale et à la fois quelque chose qui est très particulier.
Et elles font, si je puis dire, enfin c'est peut-être un peu rustique de poser la question comme ça, mais elles fonctionnent comment, cette internationale ? Il y a une direction,
Il y a deux niveaux. Il y a un niveau national, et l'organisation, le Tanzim égyptien, est le plus fort, celui qui fait référence. Mais vous avez aussi une organisation au niveau international, c'est là où les tensions apparaissent, précisément dans les moments... comme ceux que je viens d'indiquer. Vous avez un autre moment de tension forte à l'époque contemporaine, c'est lors de l'invasion du Koweït. Les frères musulmans koweïtiens étaient contre l'invasion de l'Irak, les frères musulmans saoudiens, ou qui vivaient en Arabie Saoudite plus exactement, ou syriens, encore que, oui, mais syriens soutenaient à l'invasion du Koweït par l'Irak.
Et donc c'est une structuration, en réalité, assez rigide, d'une certaine manière, avec des orientations, Anne-Clémentine Larocque.
Selon les événements géopolitiques, selon les intérêts aussi effectivement des nations. Il ne faut jamais oublier aussi la dimension nationale. Moi, je l'avais beaucoup étudié justement dans mon ouvrage sur l'Égypte, la Tunisie et le Maroc, en disant attention, le PJD, Ennahda et le PLJ, c'est pas absolument pas les.
Le PJD c'est au Maroc, Ennahda c'est en Tunisie.
Et voilà.
Et il y a l'Égypte.
Et l'Égypte. Évidemment. Tout ça résonne, évidemment qu'il y a des aspects communs qui sont défendus, mais en même temps, ils sont aussi l'émanation d'une histoire politique, d'une histoire aussi de la conscience politique des peuples par rapport donc à ces partis qui arrivent en 2011-2012.
Mais il y a un endroit où ça va avoir, enfin, où un événement qui est pour eux important parce qu'il va y avoir des liens, c'est l'Iran. C'est la manière dont la pensée des frères musulmans va dans un monde qui n'est pas exactement sunnite, mais qui est le monde chiite.
Alors, ce passage est complexe et à mon avis, beaucoup de choses sont dites sans s'appuyer vraiment sur des sources. Il y a des contacts au milieu des années 50, c'est incontestable, et des proximités de vue, c'est-à-dire avec des ennemis communs. Donc, on partage des ennemis communs, et donc il y a des fédaïnes iraniens qui rencontrent des frères musulmans égyptiens, et le projet d'islam englobant convient à l'un et à l'autre. Ça, c'est un premier point. Il y a des frères musulmans kurdes, à cheval sur l'Irak et l'Iran, qui font le passage. Quelqu'un comme Salah ad-Din Bahaeddin est un transmetteur direct, là on le connaît lui, de la pensée des frères musulmans, du monde arabe vers le monde iranien. Mais et il y a des soutiens frères musulmans explicites à la révolution iranienne de 1979. Le Mouchid, celui qui dirige Ennahda, Rachid Ranouchi applaudit la révolution iranienne. Ça s'appelle pas encore Ennahda à ce moment-là, mais applaudit la révolution iranienne et soutient ça. Cependant, il y a un problème qui est posé par la constitution iranienne, y compris aux frères musulmans, c'est que Khomeini a réuni en lui-même la fonction du juriste théologien et de celui qui a le pouvoir exécutif. Et ça passe pas pour un sunnite.
C'est-à-dire l'idée de théocratie est étrangère à...
Non pas l'idée de théocratie, parce que les uns comme les autres placent ce qu'ils appellent les prescriptions islamiques au-dessus de tout. Mm-hmm. Sauf que pour les sunnites, c'est la judicature, c'est-à-dire les juristes religieux, qui sont les garants de cette expression des prescriptions islamiques, alors que dans le cadre iranien, c'est aussi celui qui exerce le pouvoir politique et militaire. Alors, et donc, le guide suprême iranien, il est le chef des armées, le chef politique, au-dessus du président de la République, et le chef religieux, même s'il a moins de capacité que des savants religieux chiites, ce qui pose problème en milieu chiite aussi. Et ça c'est un problème fondamental.
Mais c'est pas un calife, justement.
Non.
Ce n'est pas un calife.
Clémentine Larocque. Même temps, les frères musulmans veulent le pouvoir.
Oui, mais alors justement, c'est ce qu'on disait, c'est que l'idée du pouvoir, elle se justifie au départ par l'idée de l'Oumma et de cet espace globalisé, globalisant, pour pouvoir mettre en place toutes les prescriptions dont on a parlé. Mais le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas l'objectif. C'est pas ça le sujet. C'est un des moyens qui permettra de. Et justement, les printemps arabes ont vraiment là-dessus enclenché une transformation interne de là où on situe le pouvoir et le pouvoir politique en particulier. Dans chacune d'ailleurs des émanations des frères musulmans. On parle plus de partis. Enfin, c'est pas des frères musulmans. Ils veulent pas se faire appeler comme ça d'ailleurs, que ce soit Ennahda ou le PJD quand vous leur parlez. On est d'origine frériste entre guillemets. Mais pour revenir à ce qu'on disait aussi sur ce rapport à l'Iran, je pense que 1979 a été une des dates à retenir, comme vous parliez tout à l'heure du 1924 avec la chute du califat. 79, justement, c'est la possibilité, cette révolution islamique qui donne envie quand même, en fait, en réalité. Il y a une forme quand même de renvoi au monde sunnite de ce qu'il n'a pas réussi à faire. Par rapport, justement, notamment aussi par rapport à soit à des dictateurs, soit à des puissances comme les Américains qui se trouvent justement derrière le Shah d'Iran à ce moment-là. Donc on est dans une ambiguïté, je partage absolument l'avis de Dominique Avon. C'est pas simple de décrypter exactement les tendances qui ont eu lieu à ce moment-là. Il y a des ambassades tunisiennes, notamment, effectivement, de Rachid Ranouchi, qui partent à Téhéran dans les années 80, juste après, pour savoir un peu comment, finalement, aussi, tout ça s'est réalisé et comment tout ça porte des fruits ou non. Mais les événements ensuite, en effet, entre l'Iran, l'Irak et la guerre du Golfe, et ce qui va se produire donc, dans les années 90 et 2000, vont aussi transformer ces relations-là.
Mais je reviens un instant sur cette question du pouvoir. Vous voulez dire que pour les frères musulmans, ce qui est plus important, c'est d'agir dans la société indépendamment de la perspective du pouvoir ?
L'exercice du pouvoir au sommet en tant que tel n'est pas forcément une priorité. Par exemple, en 1936, il y a un nouveau roi en Égypte. Et c'est une aubaine pour Hassan el-Banna. Il se dit « le père était vendu à l'Europe, aux Français ». Parce qu'on parlait français à la cour d'Égypte à ce moment-là et aux Britanniques.
Le père, c'était Farouk.
Fouad et Farouk.
C'était Fouad.
Voilà. Et le fils se présente comme un musulman pieux, ce qui n'est plus le cas après, mais en 1936, il se présente comme un musulman pieux. Et pour Hassan el-Banna, voilà une opportunité. Donc, ce n'est pas le remplacer forcément, mais c'est l'utiliser pour que la société devienne intégralement islamique. Voilà pourquoi la priorité n'est pas forcément de trouver comme un parti bolchevique. Faut pas du tout l'identifier à un parti bolchevique. La conquête du pouvoir, mais c'est la transformation de la société.
Hein. C'est parce que précisément, c'est pas un parti politique, de toute façon. L'essence même de cet enzyme, de cette organisation, n'est pas un parti politique.
D'où l'échec, alors, des expériences où on a des personnes qui ont été idéologiquement marquées par les frères musulmans, qui arrivent à des responsabilités étatiques et qui ont du mal à les prendre en charge et qui finissent par être éjectés.
Alors, moi je pense qu'il y avait effectivement déjà le manque d'expérience totale à pouvoir gérer une politique économique, une politique sociale et économique, et une politique éventuellement culturelle, parce que précisément, comme on l'a dit, vous avez des habitudes qui se sont fixées par rapport à ce qu'on laissait comme champ à la fois social, un tout petit peu politique parfois aux frères musulmans. Mais donc manque d'expérience évidemment, un manque de pragmatisme, on l'a dit beaucoup pour les Égyptiens, qui ne sont pas arrivés à intégrer les autres éléments de la société dans leur projet. Est-ce que c'est lié justement au projet de base ? Ça, je ne peux pas forcément y répondre. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de capacité véritablement à intégrer et à réfléchir à une forme de délégation ou de coopération.
Peut-être faut-il quand même refaire en bref le film de ce qui s'est passé en 2012-2013. Tout le monde ne l'a pas forcément à l'esprit.
Alors, en fait, évidemment, la Tunisie est le...
Je pensais à l'Égypte déjà dans un premier temps.
Oui, mais ça part de Tunisie.
Le mouvement
part de Tunisie. Alors, il y a les printemps arabes et ensuite, il y a l'intrication, évidemment, l'opportunité que représentent les printemps arabes pour les partis islamistes d'origine frériste. Hein. Au départ, c'est absolument pas justement islamiste. Ces revendications qui sont...
C'est l'occasion.
C'est les jeunesses qui, en mal de débouchés économiques et de propositions dans ces trois États-là particulièrement, donc dans les deux, Tunisie et Égypte, puis ensuite, par exemple, au Maroc, mais qui ne vont pas trouver, en fait, de quoi projeter leur avenir. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on va avoir donc des meetings et une volonté... en tout cas de dire adieu au président Moubarak, à Ben Ali en Tunisie. Au Maroc, le roi Mohamed VI va contenir, en tout cas, le mouvement du 20 février. Et donc, on va réussir à une sorte de compromis. En Jordanie, il va y avoir quelques éléments. Et voilà, tout le monde arabe va être, en 6 mois, en tout cas, concerné par ce qui se passe. Et à ce moment-là, on va avoir ceux qui ont été exilés, et ceux qui ont été rejetés. Il y avait la gauche, mais il y avait aussi les islamistes qui vont tenter, à ce moment-là, de pouvoir revenir parce que les têtes dictatoriales vont être remerciées par le peuple. Et effectivement, donc on a d'abord les élections législatives qui, en Égypte, permettent donc au parti du PLJ donc d'arriver en tête. Je crois que c'est 44%. Et ensuite, donc à l'occasion de l'élection présidentielle, donc mi-2012, vous allez avoir donc Mohamed Morsi qui est élu président de la République à 51,7%, je crois, des suffrages.
Qui est dirigeant des frères.
C'est pas le plus haut dirigeant. Il y a un dirigeant plus important que lui, Khayrat Shatter, qui était pressenti pour, mais il est trop clivant. Et donc on le présente lui, qui n'a pas un grand charisme, comme étant le candidat potentiel, mais il est moins sensible et donc il passe mieux auprès des électeurs égyptiens, parce que les élections sont véritablement démocratiques à ce moment-là. Mais très vite, les frères musulmans, en fait, veulent s'emparer de tous les corps de la nation. C'est-à-dire veulent prendre la main sur tous les corps de la nation. Et l'armée a une culture propre. Et donc quand l'armée voit se développer ça, elle résiste. Et ensuite, elle repousse. Quand El Azhar voit ça, une partie du corps azari résiste et repousse, alors que d'autres tâchent d'aller plus loin. Et sur le plan de la politique étrangère, ils sont soutenus et dans la région par certains États, en particulier le Qatar, et à l'étranger par des pays de l'Union européenne ou par les États-Unis. Mais ils avaient préparé le terrain. Dans les années 2000, il y a des envoyés frères musulmans, tunisiens ou égyptiens, qui sont allés à Washington, ils ont fréquenté tous ces cercles-là en disant « Nous, on n'est pas les méchants. Les méchants, ce sont les dictateurs qui ne laissent pas la voie libre au peuple. Si vous laissez des élections libres, vous allez voir, on va être élus. » Et c'est effectivement ce qui se passe.
Et en même temps, Clémentine Larocque, il y a quand même quelque chose, c'est que vous dites plusieurs fois, c'est pas un parti, et d'une certaine manière, c'est la question de la démocratie, du multipartisme, sur lequel ils vont buter.
Oui, mais c'est parce que précisément, je crois qu'il ne faut pas confondre l'organisation qu'Hassan al-Banna a mise en place en 1928 et ce qui va advenir de cette organisation et qui s'est finalement, on l'a dit tout à l'heure, qui s'est adaptée, qui a dû comprendre aussi sur quel territoire elle s'adaptait en ayant des leaders nationaux qui vont justement hybrider finalement, je trouve, l'esprit de la confrérie avec ce que peut être une force politique et un parti politique. Il va y avoir une transformation à ce moment-là, c'est ce que j'ai essayé de démontrer par les entretiens que j'ai pu mener dans les trois pays, dans le fameux livre « L'islamisme au pouvoir ». En effet, on a véritablement cette thermidorisation où on va avoir aussi la matrice idéologique très forte, très religieuse de départ des frères musulmans qui va devoir s'adapter en fait aux vicissitudes du pouvoir, entre guillemets, à l'exercice du pouvoir et qui va devoir lâcher progressivement, que ce soit en Tunisie ou au Maroc par exemple, cette matrice idéologique très forte, parce que ça ne peut pas convenir avec l'exercice du pouvoir.
Mais dans cette matrice idéologique, Dominique Avon, il y a quand même quelque chose qui est fondamental et qu'ils n'arrivent pas, je dirais, à penser ou qu'ils ne veulent pas, c'est la question de la liberté de conscience, qui est un rapport très direct avec l'idée de la démocratie.
Oui, et de l'épanouissement de l'individu. Encore une fois, du point de vue doctrinal, ça n'est pas leur horizon. Leur horizon, c'est penser le groupe musulman, la communauté des musulmans, avec, à la fin, hein, quand ils parlent de Ostaziyat al-Alem, c'est-à-dire le magistère sur le monde, si tout le monde est bien instruit, tout le monde doit devenir, le monde entier, hein, quand je dis tout le monde, c'est le monde entier, doit devenir musulman. Et tout musulman ne doit pas être en désaccord avec un autre musulman. J'ai parlé tout à l'heure du petit frère de Hassan al-Banna, qui s'appelle Gamal al-Banna. Au début des années 2000, il a publié un article qui a fait choc en Égypte, qui réfléchit sur la notion de et-ta'doudiyat, c'est-à-dire de pluralité. Et il dit, vous refusez la pluralité, vous parlez uniquement de l'unité. Et alors il les provoque, il leur dit, vous êtes devenus des polythéistes, parce qu'il n'y a que un, et c'est Dieu. Et si vous voulez faire de un seul parti un seul, vous devenez des polythéistes. Vous devinez un peu la provocation ici de ce petit frère de Hassan al-Banna qui ne partageait pas la vie ou la pensée de son grand frère, mais qui avait beaucoup d'affection néanmoins pour lui. Et donc c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne pense pas ni l'individu, ou l'épanouissement de l'individu, donc effectivement pas la liberté de conscience. Voilà pourquoi en Tunisie, par exemple, ils ont dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas adopter un principe de liberté de conscience collective ?» Je vous laisse mesurer ce que ça peut signifier, la liberté de conscience collective. Et évidemment, des Tunisiens ont répondu que non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Vous évoquez la visée sur le monde entier. Est-ce que ça veut dire que le prosélytisme des frères musulmans dépasse, au moins dans son principe, voire dans sa réalité, le monde musulman proprement dit, mais s'étend dans le monde qui ne l'est pas, ou qui ne l'est pas centralement.
Absolument. Le mot-clé qui revient le plus souvent dans les textes de Hassan al-Banna, c'est « da'wa », c'est-à-dire la mission. Et la mission n'a pas de frontières. Et donc il faut se donner tous les moyens possibles, c'est beaucoup plus important que l'exercice du pouvoir au sommet, hein. Il faut se donner tous les moyens possibles de diffuser cette pensée religieuse. Voilà pourquoi, par exemple, en Grande-Bretagne, le Secours islamique a été noyauté par eux, ce qui n'est pas le cas en France. Le Secours islamique en France a résisté contre l'entrisme des frères musulmans. Mais en Grande-Bretagne, très largement, et dans tout un tas de secteurs, les frères musulmans ont essayé de pénétrer pour promouvoir justement cette mission islamique telle que leur conception de l'islam le relie.
Vous faites la différence Grande-Bretagne-France. Que peut-on dire aujourd'hui de l'implantation et dans quel secteur et de quelle manière des frères musulmans en France ?
Les frères musulmans, alors, ils ont favorisé la constitution de l'UOIF, qui est devenue Musulman de France, ce qui ne veut pas dire que tous les membres de Musulmans de France soient reliés à la pensée banaïte, c'est-à-dire de Hassan al-Banna, mais parmi les leaders et les fondateurs, il y a un lien étroit avec le mouvement et la mouvance des frères musulmans.
Et du reste, beaucoup d'origine tunisienne, justement.
Ou irakienne, ou libanaise. Il y a un Libanais.
Et portant. Des Marocains aussi.
Mais,
et,
oui, oui.
Le fondateur est irakien.
Parmi les dirigeants, les Tunisiens, justement, dans les écoles de formation, sont très présents.
Dans les IESH, notamment.
Voilà. Mais je reviens un instant sur cette idée de la liberté de conscience et le programme et le manifeste. Ce qui s'est passé en Afghanistan avec les talibans, on a le sentiment que c'est le programme des frères musulmans. On met une police des mœurs, on interdit la musique, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et quelle a été leur réaction par rapport à la victoire des talibans ?
Il y a un lieu où on peut observer leur réaction, qui est le portail de l'Union internationale des savants musulmans. L'Union internationale des savants musulmans a été créée en 2004 par Youssef El-Kardawi, un savant sunnite formé à El-Azhar, qui a toujours été, tout en défendant son autonomie, de cette mouvance banaïte. Il a été remplacé en 2018 par Raisouni, et à l'été 2021, le secrétaire général de cette Union internationale des savants musulmans applaudit la victoire des talibans en Afghanistan. Et il explique que cette victoire est une victoire qui est fondée sur la force des armes. Je vais vous citer un extrait de sa déclaration que l'on trouve encore sur le site d'Union internationale des savants musulmans. Là réside le secret des ennemis de l'islam qui, depuis des siècles, insistent pour faire cesser le vrai djihad selon notre manière de le concevoir et la politique religieusement légale, en d'autres termes, pour éliminer l'autorité de l'islam, c'est-à-dire ce qu'ils appellent l'islam politique, expression que vous avez employée au début de cette émission. Mais il n'en sera rien. Cette religion complète, achevée, globale, se perpétuera par l'action du Dieu Très-Haut jusqu'au jour de la résurrection. Donc c'est véritablement un bravo qui est lancé aux talibans en Afghanistan en août 2021. Alors depuis, il y a très peu d'articles là-dessus. Mais en août 2021, ils ont applaudi cette victoire.
Ce qui donne le sentiment quand même que, au fond, le projet initial, celui d'Al-Banna, puisqu'on en parle, a finalement peu évolué dans sa définition depuis un siècle.
Parfaitement.
Anne-Clémentine Larrain.
Justement, ça me fait penser aussi à une katibat, une brigade donc, qui se trouve vers Idlib, en Syrie, d'un franco-sénégalais qui s'appelle Omar Diaby, Katoul Rouhaba, qui a félicité sur son blog également la victoire des frères...
Des frères talibans
en Afghanistan, et qui, lui, donc, est plutôt sur la grammaire d'action caïdiste, même s'il a aussi autonomisé sa vision des choses, et qui va aller dans le même sens, finalement. Hein, alors qu'on est dans des groupes différents. Lui, c'est un groupe qualifié de terroriste désormais par l'Union européenne et l'Occident, et qui va donc, en tout cas, adhérer à cette vision aussi globalisante sans être purement un frère musulman. Et donc, il y a eu aussi des dérivations de tout ça.
Pour reprendre l'interrogation de Gérard Courtois, il est clair que dans le monde musulman occidental, cette question de la victoire des talibans est très peu discutée avec ses conséquences, Dominique Avon.
Oui, parfaitement. Elle gêne beaucoup. Parce que critiquer Daesh du fait de son action violente et qui s'en prenait à d'autres musulmans était une possibilité, même s'ils ont décidé de les garder dans l'islam. Les autorités religieuses en 2014 comme en 2015 qui se sont réunies au Caire puis à la Mecque ont dit on garde les gens de Daesh dans l'islam, on ne les rejette pas hors de l'islam. Mais les talibans leur posent des problèmes beaucoup plus aigus parce que ils ne peuvent pas dire que ce que les talibans mettent en application n'est pas conforme à ce que eux-mêmes enseignent sans l'appliquer.
Vous parlez de Daesh. Est-ce que ça veut dire que ce mouvement des frères musulmans est un... Je vais probablement dire des choses assez caricaturales. Est un rempart contre le djihadisme islamique ou au contraire un tremplin pour son développement?
Anne-Clémentine Larocque.
Alors, j'en avais parlé justement dans mon livre aussi au moment des printemps arabes, puisque précisément vous avez une opposition de fait entre les partis au pouvoir, Ennahda, PJD et PLJ, et les organisations djihadistes. On a des attentats au même moment. En 2013, Rachid Ranouchi doit se positionner.
Rachid Ranouchi, c'est le leader
d'Ennahda, qui actuellement est en prison depuis quelques semaines.
Qui est le frère musulman tunisien historique.
Ah oui, qui était là dans le mouvement islamique de Tunisie, qui a créé en 1980 cette mouvance-là, qui a été exilé à Londres, etc. Et qui est revenu donc en 2011, vraiment acclamé par la foule. Et celui-ci va permettre, on est quand même dans un moment vraiment de flou politique et où finalement la liberté commence aussi à vraiment pénétrer, je dirais, les arcanes de la politique, puisque vous avez un groupe qui s'appelle Ansar al-Sharia, qui va être donc créé en 2011 par des vétérans d'Afghanistan, qui va pouvoir exister, qui est un parti groupe salafiste, qui va être finalement donc concurrent, mais aussi en lien avec Ennahda jusqu'en 2013. Et ça, c'est un vrai sujet. Il y a une vidéo, une fameuse vidéo qui porte voilà, une culpabilité sur ces liens entre Ranouchi et ce groupe Ansar al-Sharia. Et à ce moment-là, suite à trois attentats, en fait, l'attaque de l'ambassade américaine par ce groupe-là, plus la commission de crimes sur deux députés de gauche tunisiens, Ennahda va devoir véritablement se positionner. Et le parti Ansar al-Sharia est donc interdit en juillet 2013. À ce moment-là, vous avez vraiment une transformation, si vous voulez, de cette grande famille qu'on pourrait qualifier d'islamiste, entre ceux, effectivement, qui sont légitimes, qui ont été élus, et ceux qui vont devenir encore plus clandestins, puisqu'ils ne sont plus reliés donc à cette famille qui a été élue. Donc, à ce moment-là, on peut parler de rempart, parce que eux-mêmes vont devoir aussi, en tout cas officiellement et publiquement, communiquer sur une lutte contre le terrorisme islamiste, et notamment contre ces groupes djihadistes.
C'est la différence entre transigeant et intransigeant que vous citez souvent, Dominique Avon.
C'était exactement ça. Une grande partie des dirigeants au sein de différentes nations majoritairement musulmanes qui sont frères musulmans, sont très pragmatiques. Et comme le but n'est pas forcément la conquête du pouvoir, mais la transformation de la société en une société intégralement islamique, ils peuvent s'opposer à des personnes qui disent « c'est ici et maintenant qu'on applique tout », y compris par la force, parce qu'ils ont besoin de s'appuyer. Voilà pourquoi aussi ils peuvent modifier le langage en disant « on ne veut plus un état religieux, mais un état civil à référence religieuse ». Donc il y a des modulations également dans le discours. Mais à d'autres moments, eh bien, il peut y avoir, de la part de frères musulmans eux-mêmes, la volonté de recourir à la France. Et en fait, à l'heure où nous parlons, il y a deux groupes de frères musulmans. Hein, le groupe de Turquie qui dit « contre le régime égyptien, il n'y a qu'une solution, c'est la force ». Et le groupe de Londres, Ibrahim Mounir, est décédé il y a quelques mois, mais qui disait « il faut rentrer dans le dialogue national avec l'Égypte ». Donc à l'heure actuelle, l'Organisation internationale des frères musulmans est divisée entre ceux qui disent « il va falloir quand même que l'on rentre dans le rang » ou sinon dans le rang, en tout cas dans un processus de discussion avec le régime égyptien, et les autres qui disent « non, ce régime n'existe pas parce qu'il est illégitime, nous sommes les seuls légitimes depuis 2013, et on les combat par la force ». Donc c'est à l'heure actuelle une division très forte interne aux frères musulmans.
C'est ce que redoutait d'ailleurs Hassan al-Banna, cette fitna.
On arrive au terme de cette émission. Est-ce qu'on peut en quelques mots conclure, après l'épisode égyptien qu'on a évoqué, l'épisode tunisien, parler d'une forme de reflux de ce mouvement, Dominique Avon?
Il est en crise. Incontestablement, il est en crise parce que il n'a plus de lieu où s'ancrer. Les Turcs et les Qataris ont en 2021 renoué leurs relations diplomatiques avec l'Égypte, et ça, c'est un très mauvais signe pour les frères musulmans qui s'étaient réfugiés. Donc c'est très difficile. Et sur le plan du projet, c'est aussi une crise.
Avec la concurrence du salafisme saoudien.
Nous arrivons au terme de cette émission. Didier, que j'évoquais, enfin Dominique Avon parle de crise, des échecs en tout cas. Est-ce que les frères musulmans n'ont pas fait la démonstration depuis un siècle qu'ils avaient une grande capacité de rebondir?
Absolument, c'est ce qu'on peut quand même conclure de cette discussion. C'est quand même, ils ont réussi à surmonter bien des épreuves. Et en réalité, il y a quelque chose dont on n'a pas discuté, c'est que leur développement et concomitant à l'effondrement des espérances laïques, hein, de l'échec du nationalisme arabe, des expériences socialistes, et en plus, je dirais, des dérives un peu impériales, c'est-à-dire des guerres qui ont déstructuré un certain nombre d'États, et au nom de principes qui, manifestement, font mal à ceux qui les subissent dès lors qu'elles sont accompagnées de bombes, pour aller vite. Voilà. Et c'est ça qui a fait quand même la force ces dernières années, à la fois de l'idéologie islamiste, et puis dans cette idéologie islamiste, manifestement, cette capacité de modernisation des organisations, et donc des frères. Hein, et l'Afghanistan, de ce point de vue-là, est quelque chose d'absolument terrible. Et on est dans une période où... En Iran, justement, il y a une révolution qui espère bousculer tout ça, mais elle a aussi son sacrifice et elle se heurte à la foi intransigeante de dirigeants qui ne veulent pas remettre en cause ce que Hassan al-Banna préconisait déjà pour les femmes.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Merci Dominique Avon, merci Anne-Clémentine Larocque.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
C'était Les Manifestes qui ont changé le monde, une émission de Gérard Courtois et Didier Lesky. Préparation Seam Boutata, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Antoine Tropé et Alexandre Dang. Lundi, la déclaration Schuman du 9 mai 1950.